Merci Guillaume Ambroise de nous accueillir dans votre beau musée des Beaux-Arts à Quimper. On va visiter l'exposition Henri Moret qui sera visible jusqu'à...
Jusqu'au 5 octobre. Donc.
Comment a été conçue cette exposition ?
Une exposition, c'est toujours un travail d'équipe et on a eu la chance de pouvoir s'appuyer sur l'expert de l'artiste, Jean-Yves Roland, qui nous a ouvert un petit peu tout son fond, toute sa documentation et qui nous a aidé à constituer une sélection d'œuvres qui semblaient les plus intéressantes et les plus représentatives de l'art d'Henri Moret. Par le jeu de Jean-Yves Roland aussi, on a pu avoir accès à des collectionneurs privés et vous verrez et vous voyez que beaucoup d'œuvres, pour ne pas dire la plupart, sont des œuvres qui sont issues de collections privées. Donc vous avez, si vous voulez, un panachage avec des œuvres qui étaient bien connues et repérées dans les musées bretons, notamment Brest, Quimper, mais aussi Rennes, mais aussi Lorient ou bien Vannes. Et puis vous avez tout cet apport qui nous a été permis et qui nous offre, on va dire, un visage neuf et complètement renouvelé sur l'œuvre d'Henri Moret avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de prêts de collections privées. Donc c'est très heureux, en effet.
Donc là, on arrive dans la première salle. Vous avez fait le choix d'une présentation, je dirais, chronologique de son travail. Donc là, on est au début.
Voilà, oui, c'est ça. On s'était forcé de respecter une forme de chronologie en rappelant plusieurs phases dans l'œuvre d'Henri Moret et en essayant aussi, dans tout le premier espace, de fixer le regard de ce peintre. Parce que c'est un peintre, en définitive, qu'on connaît mal, pour lequel la biographie reste lacunaire. Et il ne subsiste de sa figure, de sa personne, que quelques rares images, deux photographies provenant de la collection Durand-Ruel, et puis ici deux peintures qui évoquent l'artiste au travail, l'une peinte par Élodie Lavillette, qu'il a bien connue, qui est une belle artiste qu'il a connue à Lorient, et l'autre peinte par Jules Leray, qui est un artiste qu'il a fréquenté et qu'il a connu alors qu'il séjournait entre le Pouldu et Pont-Aven. Et donc, vous voyez, on a déjà tout de suite là de cadrer un petit peu des éléments biographiques qui nous invitent à découvrir ses débuts à partir de 1875, lorsqu'il est encore un peintre, on va dire, plus versé dans une vision naturaliste du paysage, à la façon un petit peu Corot, et ensuite le basculement vers la découverte de la peinture de Gauguin et Bernard et vers le synthétisme. On a la chance, en effet, de pouvoir aborder de façon relativement chronologique ce parcours. Et c'est ce qui permet aussi de saisir à quel point ce peintre a gardé une forme d'unité, c'est le paysage, mais a su, au sein de cette unité, introduire beaucoup de variations, beaucoup de nuances, depuis ses débuts, en passant par le synthétisme jusqu'au retour à l'impressionnisme.
C'est ça, on peut vraiment dire que c'est le peintre du paysage et de la nature. Il y a très peu de représentations humaine ou animale. On en voit quelques-unes à ses tout débuts, mais tout de suite, ça s'est complètement éclipsé.
Il se trouve que c'est fondamentalement le peintre du paysage, et je vous rejoins complètement là-dessus. Néanmoins, il aime parfois ponctuer certaines de ses œuvres, certains de ses vastes panoramas, en y réintroduisant la figure humaine. On pourra le voir d'ailleurs dans ce premier espace. La figure humaine n'est pas essentielle, mais elle existe.
Donc pour lui, tout commence à Lorient.
Henri Moret est un peintre qui est originaire de Cherbourg. Il y est né en 1856 et on ne sait pratiquement rien de ses premières années jusqu'à 19 ans, où en 1875, il rejoint Lorient pour y effectuer son service militaire. Et c'est à Lorient, dans un milieu qui est déjà un milieu qui comprend plusieurs personnalités artistiques, il y a tout un milieu, un environnement auquel il va être associé et qui va lui permettre véritablement de prendre son envol, puisque c'est à partir de là qu'il va tenter de présenter des œuvres au salon à Paris pour y gagner la reconnaissance. Et l'un des premiers tableaux que l'on présente est précisément une œuvre qui a été peinte en 1880 et qu'il expose au salon parisien de 1881 et qui lui vaut d'ailleurs des critiques plutôt favorables. Et donc, quelque part, pour lui, si vous voulez, ce sont ses débuts. C'est une vue du Pouldu, du bas Pouldu. Là aussi, on comprend à quel point cette partie de côte a joué un rôle essentiel dans sa vie, le Bas-Pouldu, Pont-Aven, Doëlan, où il va séjourner régulièrement à partir de 1894. Bref, il y a une sorte de point d'attache qui part de Lorient et qui le fait un petit peu avancer dans le Finistère, mais qui est un environnement géographique qu'il va toujours, toujours rechercher. Et à partir de Lorient, il y a aussi quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est que tout de suite, il va s'intéresser aux îles, il va s'intéresser au paysage des îles. Et évidemment, en face de l'Orient, vous avez Groix. Et peut-être que l'île de Groix est une des toutes premières qu'il va peindre très tôt, là aussi, à ses débuts. Du reste, on en présente un paysage absolument extraordinaire qui date de 1891 et qui est juste dans le prolongement de la salle.
On va aller la voir à l'île de Groix.
Cette vue de l'île de Groix qui est une toile essentielle dans le parcours de l'artiste, datée de 1891. Il vient de découvrir et d'être le témoin de la révolution synthétiste auprès d'Émile Bernard et de Paul Gauguin. Et on voit que dans ce paysage, il a adopté un certain nombre de leçons, ou en tout cas d'aspects qui relèvent du synthétisme, notamment ce travail qui se fait par plans qui se succèdent les uns après les autres. Ce travail qui se fait en privilégiant non pas une touche empâtée, mais plutôt une touche en aplat, et puis l'usage plus ou moins appuyé de cernes. Et puis ce qu'il y a de fabuleux, c'est cette façon dont il nous fait plonger véritablement dans cette baie qui se développe sous nos yeux, où on a une sorte de vue, de perspective qui relève de l'esprit de l'estampe japonaise, avec un cadrage qui est un cadrage extrêmement original. Et là, tous ces éléments fusionnent dans une œuvre qui est une œuvre extrêmement représentative, ou en tout cas parfaitement imbibée de cet esprit synthétiste auquel je faisais allusion.
Donc là, Guillaume Ambroise, on arrive dans la deuxième salle de l'exposition Henri Moret. Qu'est-ce qu'elle dit, cette seconde salle ?
Alors ça, c'est une salle pour laquelle on a eu beaucoup de plaisir à travailler les accrochages, parce qu'on se trouve dans un espace qui est véritablement un espace consacré à l'art de la sensation, ou comment Henri Moret, qui est un artiste qui donc de plus en plus adopte une technique impressionniste, cherche à restituer les paysages qu'il arpente. Et vous verrez en traversant ces espaces et en regardant les œuvres qui sont présentées, et elles sont nombreuses, ô combien il essaye d'amalgamer à la fois le ciel, la lumière, les roches, les espaces maritimes, mais aussi qui s'interprennent avec les fleuves, et ô combien, en définitive, on est dans un art de la sensation. Et en parcourant les espaces, on s'aperçoit qu'à certains moments, on va avoir plusieurs œuvres qui décrivent des paysages de Belle-Île ou d'Ouessant, et puis à d'autres moments, on a tenté de réunir des tableaux qui décrivent des phénomènes atmosphériques. Et parmi ceux-ci, vous en avez qui sont extrêmement spectaculaires, notamment ceux qui sont des paysages hivernaux, des paysages de neige. Et on voit que Henri Moret a été attiré par cette saison, ce qui fait qu'il est extrêmement original de ce point de vue et qu'il rejoint aussi d'ailleurs les pratiques des impressionnistes, mais aussi de Paul Gauguin, qui a été un des rares à peindre des effets de neige du côté de Pont-Aven. Et on voit que Moret ici s'épanouit dans cette approche. C'est pour lui une manière de transcrire la beauté d'un paysage hivernal, un univers poétique extrêmement sensible. Et puis il y a peut-être aussi une autre œuvre qui est un petit peu mise en valeur et isolée, qui est assez spectaculaire, qui vous montre là une sorte de grosse averse qui s'abat sur les côtes du côté du Pouldu ou de Douélan.
On va aller la voir ? L'averse, côte de Bretagne.
Voilà, alors parfois les titres ne sont pas forcément descriptifs au point de retrouver les lieux géographiques, mais on comprend évidemment que nous sommes en Bretagne, il n'y a pas de doute à voir l'architecture de la chaumière qui se développe à l'arrière-plan, des murets, et puis il y a quelque chose d'absolument fabuleux dans ce travail que réalise Moret, c'est l'usage d'un certain nombre de couleurs qu'il affectionne particulièrement. Et là, dans cette œuvre qui est toute humide, donc de cette averse, de ce grain qui s'abat à l'arrière-plan, vous retrouvez deux couleurs, deux teintes qui lui sont particulièrement chères, des verts qui passent par mille nuances jusqu'à des verts très crus, et un rose qui enveloppe le chemin et qui se retrouve à l'arrière-plan sur la côte qui se dévoile derrière. C'est une œuvre absolument merveilleuse parce qu'elle semble complètement restituer cette atmosphère fugace, rapide, d'un gros grain qui s'abat dans l'océan.
Merci beaucoup Guillaume Ambroise de votre accueil, et puis ça fait du bien d'entendre les enfants dans les salles.
Je crois que ça fait du bien à tout le monde de revoir des visiteurs et les enfants, c'est évidemment une part importante de notre public parce qu'on a envie de les voir jeunes et on a envie de les voir ensuite adultes.
Merci beaucoup.
Merci.